Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Mon métier d'écrivain est complètement détruit. Ça m'ôte toute raison d'être. Je devrais être triste, mais pour une raison que j'ignore, je me sens assez bien. Au printemps 1975, Michel Conta proposait à Sartre de réaliser, à l'occasion de son 70e anniversaire, un entretien sur sa situation, ses préoccupations, ses projets. Alors Sartre, comment ça va? Lui demandait-il pour commencer. Et la réponse du philosophe, qui révélait alors publiquement la cécité qu'il touchait depuis 2 ans, frappe par sa franchise et sa netteté. J'estime que parler de soi n'est pas présomptueux, parce que n'importe qui devrait pouvoir dire le plus profond de soi, explique-t-il. L'écrivain est fait pour parler du monde tout entier, en parlant de lui-même tout entier. D'une durée totale de 6 heures, ces enregistrements étaient destinés à être publiés et le furent dans 3 numéros du Nouvel Observateur en juin et juillet 1975. Michel Conta avait cependant conservé précieusement les cassettes et en 2001, France Culture en proposait la diffusion dans 10 volets des Chemins de la Connaissance. Sartre, autoportrait à 70 ans, premier épisode, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 1er octobre 2001.
L'enregistrement qu'on va entendre pour la première fois est un document qui n'a pas été fait pour la radio, mais en vue d'une interview écrite, publiée dans le Nouvel Observateur pour le 70e anniversaire de Sartre. Il est né en 1905, le 21 juin. Je souhaitais l'aider à sortir d'un silence qui lui nuisait. J'avais 36 ans, je n'étais pas encore chercheur au CNRS, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un intellectuel précaire travaillant à la pige. Je connaissais Sartre depuis 10 ans. J'avais noué avec sa fille adoptive, Arlette Elkaïm Sartre, une relation d'affectueuse amitié. On se voyait souvent tous les trois pour parler de mon travail sur lui, pour discuter de l'actualité, ou simplement pour converser. J'avais pour lui une vive amitié, mêlée de quelques sentiments filiaux. Quelques mois auparavant, en décembre 1974, Sartre avait fait scandale une fois de plus. Sa visite à Andreas Bader, le chef de la fraction armée rouge, détenu à Stuttgart, avait été présenté par les médias comme une approbation à l'action terroriste de ce groupe. La rumeur courait que Sartre, très diminué, était manipulé par les anciens Mao de la gauche prolétarienne, en particulier par son chef historique, Pierre Victor. De son vrai nom, Benny Lévy, ce jeune philosophe était devenu le principal interlocuteur de Sartre. Plus tard, Simone de Beauvoir jugera que les entretiens de Sartre avec lui le menaient à un reniement de son athéisme philosophique. Peu après la publication de ses entretiens, titré « L'espoir maintenant », Sartre est mort le 15 avril 1980. Aujourd'hui, Benny Lévy enseigne un judaïsme ultra-religieux dans une école à Jérusalem. En 1974-75, Sartre travaille avec Simone de Beauvoir, Pierre Victor et Philippe Gavi à un projet d'émission de télévision sur l'histoire du siècle telle qu'il l'a vécue et comprise. Il répond ainsi à l'offre de Marcel Julien, directeur d'Antenne 2, la nouvelle chaîne du service public libéralisé. De mon côté, je monte le film Sartre par lui-même que nous avions tourné avec Alexandre Astruc en 1972, mais qu'il avait fallu interrompre faute d'argent. Et puis, avec Michel Ribalka, je travaille à l'édition des œuvres romanesques de Sartre dans la Pléiade. Une interview grand public pour le Nouvel Observateur tombait à point, pour la raison aussi que nous avions besoin, Sartre et moi, de nous renflouer. L'année d'avant, il avait commencé avec Simone de Beauvoir, a enregistré des entretiens autobiographiques dont il voulait tirer un livre, La suite des mots. Ce sont ces entretiens lus par Samy Frey dans le cadre du Festival d'automne. Dans l'immédiat, en 1975, c'était un autoportrait qui s'imposait, un bilan et l'exposé de ce qu'il comptait encore faire. Nous avons donc enregistré plusieurs séances d'interviews sur un simple magnétophone à cassette. Cela se passait à Junas, dans le Gard, où Arlette Elkaïm Sartre avait une petite maison de vacances au milieu du village. D'abord, nous avons parlé seuls, Sartre et moi, puis Arlette est intervenue dans la conversation tout naturellement. Rentré à Paris, j'ai transcrit nos propos et j'y ai inséré ici ou là des réflexions que je me rappelais d'autres conversations avec lui. J'ai donc constitué un texte que Sartre a approuvé. Il a lui-même suggéré le titre « Autoportrait à 70 ans » en pensant à Rembrandt. L'interview a paru dans le Nouvel Observateur et il a été ensuite complété pour sa publication dans le volume de Sartre, Situation 10, Politique et Autobiographie. À Junas, ma première question avait été simplement « Alors Sartre, comment ça va ?»
Il est difficile de dire que ça va bien, mais je ne puis pas dire non plus que ça aille mal. En vérité, depuis 2 ans, un certain nombre d'accidents me sont arrivés, en particulier les jambes sont douloureuses dès que je fais plus d'un kilomètre et je me borne en général à cette distance. D'autre part, j'ai des troubles de tension assez considérables, mais qui brusquement, ces derniers temps, se sont supprimés, avec bien sûr des remèdes. Et enfin, surtout, j'ai eu des hémorragies derrière mon œil gauche, c'est-à-dire le seul œil de mes 2 yeux qui voit, et alors qu'il est, je vois encore les formes, vaguement, je vois les lumières, je vois les couleurs, mais je ne vois plus en général les objets distinctement, en particulier les visages sont complètement invisibles ou simplement vaguement. Et je ne peux naturellement plus ni lire ni écrire. C'est-à-dire que je peux écrire, former les mots avec ma main, et je le fais actuellement à peu près convenablement. Mais je ne peux pas lire ce que j'écris. Donc, toute activité d'écrivain m'est actuellement interdite. Et quant à lire, je ne peux absolument plus. Mon métier d'écrivain est complètement détruit. Cependant, je peux encore parler. C'est pour cela d'ailleurs que mon prochain travail sera, si ça réussit, une émission à la télévision où j'essaierai de parler des 75 années de ce siècle et je la ferai avec plusieurs camarades qui travaillent avec moi, qui ont leurs idées à exprimer et qui se chargent aussi de la besogne plus matérielle que je suis incapable de faire moi-même. Voilà ma situation actuelle. Ceci dit, à part cela, je me porte très bien. C'est-à-dire, je dors tous les soirs quand il faut, d'excellent sommeil. Mon esprit est probablement aussi fin, pas plus, mais pas moins, qu'il y a 10 ans. Et ma sensibilité reste la même.
Mais le fait de ne plus pouvoir écrire, pour vous, c'est quand même un coup considérable, ça ne vous a pas...
C'est-à-dire que ça m'ôte absolument toute raison d'être. J'ai été, je ne suis plus, si vous voulez. Mais je devrais être très triste, et pour une raison que j'ignore, je me sens assez bien. Je n'ai jamais de tristesse, ni de moments de mélancolie, en pensant à ce que j'ai perdu.
Vous n'avez pas eu des moments de révolte, quand même ?
Non. J'ai eu des moments parce que ça a été, à un moment donné, plus grave. Il y a 2 ans, j'ai eu des espèces de légers délires. Je me rappelle m'être promené à Avignon, où j'étais avec Simone de Beauvoir, en cherchant une jeune fille qui m'avait donné rendez-vous à un certain endroit. Bien entendu, c'était faux. Mais j'imaginais que j'avais rendez-vous sur ce banc avec cette jeune fille.
Mais vous aviez l'espoir de recouvrer la vue ?
Non, aucunement. C'est ennuyeux parce que je sens suffisamment de choses pour avoir envie d'écrire.
Ah, vous auriez vraiment envie d'écrire ?
À l'occasion, oui.
Mais par exemple, dans Libération, vous n'écriviez finalement pas tellement, même lorsque l'accident qui vous est arrivé, Libération avait déjà commencé.
Oui.
Et si vous n'écriviez pas, c'était pas davantage pour Libération, c'était pour quelle raison ?
On avait parlé de faire des dialogues à 2 ou à 3. Mon camarade Pierre et moi, Gavi, Pierre et moi aussi. Et puis, on en a fait 1 ou 2, je crois. Et puis ça ne s'est plus trouvé, et puis nous avons fait ce livre un peu dans les mêmes conditions. On a raison de se révolter. tout ce que j'ai dit, c'est encore moi qui ai corrigé, parce que j'y voyais suffisamment pour corriger. Et puis, Simone de Beauvoir l'a relu de manière à ce que tout soit correct, que je n'ai rien laissé tomber de ce que j'avais dit. Mais c'est quand même exactement ce que je disais moi.
Qu'est-ce qui a changé de manière décisive par le fait que vous ne pouvez ni lire ni écrire?
À proprement parler, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui méprisent. C'est ce qu'on pourrait appeler le style, la manière littéraire d'exposer quelque chose. Cela, ça demande nécessairement des corrections. Quelquefois, des corrections qui se renouvellent 5-6 fois. Moi seul, je ne peux pas le faire. Sauf si j'avais un appareil qui, comme certains le sont, qui redonne la parole à l'état oral.
Parce qu'à la limite, vous pourriez travailler avec un magnétophone à cassette, dicter ce que, vous-même, solitairement, ce que vous avez à dire, vous arrêter, écouter ce que vous avez dit, reprendre. Est-ce qu'il y a là une différence fondamentale entre cette espèce d'écriture orale, disons, et l'écriture proprement dite?
Je pense qu'il y a une différence énorme. L'écriture proprement dite, on la lit, mais on la lit lentement ou rapidement. C'est-à-dire que vous ne décidez pas du temps que vous resterez penché sur une phrase. Vous ne décidez pas non plus au départ de ce qui rend cette phrase non satisfaisante. C'est peut-être quelque chose en elle, c'est peut-être un mauvais rapport qu'elle a avec la phrase précédente ou suivante. Toutes ces choses supposent que vous regardiez le texte un peu comme un grimoire, que vous changiez successivement des mots ici et là, et puis que vous reveniez sur ce changement et que vous en fassiez un autre. Si j'écoute à un magnétophone ce que j'ai dit, le temps que les phrases me sont présentées est défini par le magnétophone et non pas par mes propres besoins. Donc, je resterai toujours en deçà ou au-delà du temps que me donne l'appareil.
Mais donc, c'est votre rapport même à, disons, l'activité réflexive, à l'activité intellectuelle qui est modifié par votre impossibilité de...
Il n'est pas modifié en ce sens que, par rapport à moi, en moi-même, il reste ce qu'il était, un contrôle de la réflexion. Mais il est modifié si j'ai écrit quelque chose. Le travail de correction ordinaire de l'écrivain, tout ce travail n'existe plus. Ce qui n'empêche que sur le plan réflexif et par rapport à ce que je pense, je peux avoir une activité correctrice, mais strictement subjective.
Et est-ce que le fait de ne plus pouvoir lire est un handicap très lourd?
C'est-à-dire que je ne prends plus connaissance par moi-même d'aucun des livres qui pourraient m'intéresser et qui paraissent actuellement.
Et on vous en parle?
Non seulement on m'en parle, mais on m'en lit.
Oui.
Simone de Beauvoir m'a lu beaucoup de livres que nous avons complètement terminés, des ouvrages de toutes sortes. Mais si j'avais à faire un travail sur ce livre, c'est-à-dire à le relire plusieurs fois, non pas seulement à emporter avec moi les connaissances qu'il donne, mais critiquer ces connaissances, savoir si elles vont bien, savoir si le livre est bâti selon ses principes, etc. Là, ça me sera suffisant. Il faudrait que je demande alors à Simone de Beauvoir de me le relire plusieurs fois et de s'arrêter, sinon à chaque phrase, du moins à chaque paragraphe. Ce qui ne veut pas dire que je ne puisse pas travailler en pensée sur ce qu'on m'a lu. Et même essayer de raisonner, et raisonner de façon à aller assez loin.
Mais est-ce qu'il y a des livres dont en ce moment vous sentez le besoin pour progresser dans le travail que vous...
Pour l'instant, je fais donc, comme je vous l'ai dit, je crois, un projet d'émission, de 10 émissions, avec deux camarades, Pierre et Gavi, et puis Simone de Beauvoir. Alors, j'ai certains livres à lire. Mmh. Et, à partir de là, Simone de Beauvoir me les a lus. Mmh. Le dernier que j'ai lu, c'est le livre de Madeleine Ribeiro sur la France de 1900 à 1975. 1914, je veux dire.
Mais tout cela donc, prend beaucoup plus de temps. Parce qu'une lecture à haute voix est...
Ça prend plus de temps. Cependant, notez que Simone de Beauvoir lit extrêmement vite. Elle lit et parle extrêmement vite. Alors, je le laisse aller à sa vitesse. Et c'est moi qui essaye de m'adapter au rythme de cette lecture.
Et vous gardez l'attention constamment?
Oui.
C'est une gymnastique intellectuelle épuisante, non?
Non, parce que je suis habitué depuis longtemps à Simone de Beauvoir. Mais ça demande un certain effort, évidemment.
Et alors, cette dépendance des autres dans laquelle vous êtes quand même en grande partie tombé, elle ne vous est pas pénible?
Si. Pénible, c'est trop dire. Parce que je vous dis, rien ne m'est pénible en ce moment. Mais, malgré tout, un peu déplaisante. J'étais habitué à écrire seul, à lire seul, et je crois encore que aujourd'hui, le vrai travail intellectuel exige la solitude. À l'heure qu'il est, avec nos méthodes actuelles de pensée, la solitude implique le dévoilement d'une seule pensée en face d'un problème, par exemple.
Mais est-ce que cela ne vous est pas particulier? Est-ce que vous n'avez pas eu toujours des habitudes de travail à la limite solipsiste?
Solipsiste, c'est trop dire, parce que vous savez que, personnellement, s'il y a une erreur pour moi, c'est bien le solipsisme. Mmh. Mais disons simplement solitaire. Oui.
Vous n'avez jamais fait de travail collectif?
J'en ai fait à l'occasion, à l'occasion de travaux d'école normale ou de travaux, je vous rappelle, un travail que j'ai fait à La Rochelle qui ne devait pas voir grand-chose, en commun avec d'autres professeurs, pour une réforme de l'enseignement universitaire. Mais en principe, et en tout cas pour les livres imprimés que j'ai donnés, mis à part On a raison de se révolter et un dialogue que j'ai fait autrefois avec Rousset, je n'ai jamais écrit que j'avais fait ces livres de seul.
Mais en revanche, une chose que vous avez toujours volontiers fait, c'est de parler de vous, par exemple, dans des interviews. Là, par exemple, est-ce que ça vous gêne de parler de vous?
Non, pourquoi?
Parce que vous pourriez considérer que ça a quelque chose de narcissique, de présomptueux.
Personnellement, j'estime d'abord que parler de soi n'est pas présomptueux, parce que n'importe qui devrait pouvoir parler de soi. Devant des scénographes ou des intervieweurs et dire le plus profond de soi. Selon moi, une erreur des rapports entre les gens, c'est que chacun conserve par rapport à l'autre quelque chose de caché, de secret. Pas nécessairement pour tous, mais pour celui-là à qui il parle en ce moment. Alors ça me paraît une erreur d'où peut-être on sortira un jour. Je pense que la transparence doit se substituer au secret. Par conséquent, je vois, et j'imagine assez bien, le jour où deux hommes n'auront plus aucun secret l'un pour l'autre, parce qu'ils n'en auront plus pour personne. Parce que la vie subjective, aussi bien que la vie objective, sera offerte, donnée. Je pense qu'il est impossible d'admettre que nous livrons notre corps comme nous le livrons et que nous cachions nos idées. Étant donné que pour moi, entre le corps et les idées, il n'y a pas de différence de nature.
Mais alors justement, ça n'est qu'avec les gens à qui nous livrons réellement notre corps, nous livrons aussi totalement nos idées.
Nous livrons notre corps à tout le monde. Je ne veux pas dire du point de vue sexuel, mais nous le livrons par le regard, par les contacts, nous le livrons à tout le monde. Vous me livrez votre corps, je vous livre le mien. Nous existons chacun l'un pour l'autre comme corps, mais n'existons pas de la même manière comme idées. Encore que les idées soient des modifications du corps. Donc, si nous voulions vraiment exister pour l'autre, nous devrions exister comme corps et par conséquent perpétuellement dénulable, même si on ne le fait jamais. Et les idées devraient apparaître à l'autre comme quelque chose qui vient du corps. Par exemple, des paroles qui sont tracées par une langue. Et toutes les idées devraient être comme ça. Même les plus vagues, les plus rapides, les moins saisissables. Autrement dit, il ne devrait plus y avoir cette clandestinité que certains siècles ont cru être l'honneur de l'homme et de la femme. Ce qui me paraît être au contraire une sorte de sottise.
Mais qu'est-ce qui est pour vous l'obstacle principal à la transparence?
C'est d'abord le mal. Ce que j'entends par le mal, c'est qu'un acte d'une personne peut être inspiré par des principes différents des miens et aboutir à des résultats que personnellement je désapprouve. Ce mal rend difficile à communiquer toutes les pensées parce que je ne sais pas dans quelle mesure vous ou telle autre personne part des mêmes principes que moi pour former ses pensées.
Alors c'est la confiance qui manque.
Non, c'est pas la confiance. Nous sommes sur un plan plus intellectuel. C'est le fait que je ne sais pas si vos principes sont nécessairement exactement comme les miens.
Oui, mais là, ces principes ils peuvent être établis, éclaircis, discutés.
Oui, dans une certaine mesure. Il n'est pas vrai que je peux discuter avec n'importe qui de n'importe quoi. Je peux avec vous parler de n'importe quoi. Et je ne le peux pas avec mon voisin ou le paysan qui traverse la rue, non. Je préférerais se battre même plutôt que de discuter avec moi jusqu'au bout. Vous le savez.
Oui, bien sûr.
Donc en fait, il y a un quant à soi, né de méfiance, si vous voulez, en effet, et d'ignorance, de peur, qui fait que à chaque instant, je ne suis pas en confiance avec l'autre, ou je le suis moindrement. Personnellement, d'ailleurs, je ne m'exprime pas sur tous les points avec les gens qui me voient. Mais j'essaye d'être le plus translucide possible. Parce que j'estime que toute cette région sombre que nous avons en nous-mêmes est à la fois sombre pour nous et sombre pour les autres. Et c'est en essayant d'être clair pour les autres que nous sommes tout à fait clairs pour nous. J'ai un fond sombre, comme chacun, qui refuse d'être dit. Même à moi, il refuse d'être dit.
Vous êtes en train d'essayer d'éviter d'appeler cela l'inconscient ou bien
C'est pas l'inconscient, non.
C'est pas l'inconscient.
Non, je parle de choses précises. Je sais, je suis conscient.
Et à la limite de ce que vous faites, de vos actes.
À la limite de ce que je fais des actes. Toujours une espèce de petite frange qui n'est pas dite et qui ne veut pas être dite, mais qui veut être su par moi.
Vous m'avez dit une fois, il serait temps que je commence à dire la vérité.
C'est exact.
Et vous m'aviez dit, je ne peux pas la dire autrement que dans une œuvre de fiction.
Oui.
Pourquoi?
Parce que nous n'en sommes pas au moment encore où on pourrait la dire directement.
Est-ce que ça veut dire que vous la connaissez ou bien que vous pensez qu'elle surgira presque indépendamment de votre volonté délibérée, consciente, d'une œuvre de fiction. Parce qu'à cette époque-là, vous aviez au fond l'intention de substituer au projet de testament politique que vous aviez eu une nouvelle. Et vous pensiez que dans cette nouvelle passerait une vérité que jusqu'à présent vous aviez tue.
Vous voyez pourquoi ? Parce que l'élément de fiction serait très mince. Ce serait un autre que moi, bien sûr, qui serait par exemple italien, qui vivrait à Rome au lieu que je suis français, que je vis à Paris, qui aurait 30 ans ou 50 ans alors que j'en ai 70. Ce sont des choses comme ça.
C'est des sortes de déguisements alors.
Déguisement ou légère transformation, de manière que certains thèmes soient poussés au bout. C'est-à-dire que il aurait fallu que, en me lisant, on dise, mais celui-là dont il est question, c'est ça. Et quand on l'aurait dit, il faut bien comprendre ce oui, c'est Sartre. On aurait pensé, ce oui existe, et ce Sartre existe. L'un comme un héros de roman, l'autre comme une personne réelle. Donc, ce oui, c'est Sartre, ça ne veut pas exactement dire la coïncidence des deux. Ça veut dire que la meilleure manière de comprendre ce oui, c'est d'essayer d'y voir quelque chose de son auteur, de moi. Alors, c'est ça que j'aurais voulu écrire. C'est-à-dire une fiction qui n'en soit pas une en même temps, si vous voulez. La vérité de l'écriture, ce serait que je dise, je prends la plume, je m'appelle Sartre, voici ce que je pense.
Est-ce que vous diriez alors que vous avez davantage approché la vérité de qui vous êtes à travers Roquentin ou Mathieu qu'en écrivant les mots?
Je pense. Ou plutôt, je pense que les mots ne sont pas plus vrais que Roquentin ou Mathieu.
C'est une idée très difficile, cette idée que le roman est vrai.
Oui, c'est difficile.
Parce que lorsque vous m'aviez dit cela, ce qui m'avait beaucoup frappé, il faudra enfin que je décide à dire la vérité, c'était une manière aussi de dire que jusqu'à présent, je n'ai fait que mentir.
Non, pas mentir. Mais dire ce qui n'est qu'à moitié vrai, qu'au quart vrai. Ôter une partie de la vérité. Par exemple, si vous voulez, mettons, je n'ai pas décrit les rapports sexuels et érotiques de ma vie. Je ne vois pas de raison d'ailleurs pour le faire. Sinon, dans une autre société, là où vraiment, les rapports seraient tous carte sur table.
Mais en revanche, on peut insérer beaucoup de choses de la manière dont vous avez vécu la sexualité à travers la manière dont vous la décrivez dans vos romans.
Oui, même dans mes ouvrages philosophiques.
Oui, oui. Le chapitre sur le désir dans l'être aimant.
Ça représente un moment de ma vie sexuelle. Mais cependant, elle y est bien dedans d'une certaine manière. Mais elle n'y est pas avec assez de détails, justement, et de complexité pour qu'on puisse y trouver vraiment. Vous me direz pourquoi en parler. Je répondrai parce que l'écrivain est fait, selon moi, pour parler du monde tout entier en parlant de lui-même tout entier. Alors, cette totalité, objectivité, subjectivité, voilà le rôle de l'écrivain. Voilà donc pourquoi il est obligé de parler de lui. Et par le fait, c'est ce qu'il a toujours fait. Plus ou moins bien, mais toujours.
Cet entretien enregistré par Sartre et moi, Michel Contat, sur un magnétophone à cassette en vacances à Junas, dans le Gard, est diffusé pour la première fois. Équipe de réalisation, Philippe Palares, Noélie Louis-Marie et Brigitte Bouvier.